El rojo. Your mic's in here. This is the GAC joint meeting with CCNSO, 19th of November, ICANN 48.
Who knows? We're assuming tomorrow through our submissions, through the court. Subject and this is not for the time being in the
That's a welcome to the ICANN Conference Center, powered by Adigo Conferencing. Please say your full name.
Any negotiation with the concerned party, which
thank you.
Is
connecting you to the conference. You may hear a list of available options at any time by touching star star.
Yes, you're more future meetings, bring them in long term. So don't be shy. It's just a time issue with these meetings. How's it going otherwise?
Okay, good afternoon, everyone.
Bonjour à tous. Heather prend la parole. Nous allons commencer avec notre séance conjointe entre le GAC et la CCNSO. Permettez-moi de vous présenter la notre coprésidente de cette séance, Al Hoyn, qui est le président, nouveau président de la CCNSO. Nous avons quelques points de notre du jour. Aujourd'hui, du point de vue du GAC, certains points que nous avons identifiés comme étant des priorités sont avoir une mise à jour sur le cadre d'interprétation du groupe en ce qui concerne les noms géographiques, et cela sur la base des documents que nous avons en matière de délégation et redélégation. Et nous avons Frank March de Nouvelle-Zélande qui va parler du travail qui a été fait en ce sens aux collègues du GAC. La Nouvelle-Zélande a envoyé des informations. Je pense que ce matériel a été diffusé pour que vous puissiez suivre cette question. Nous voudrions également avoir une mise à jour du processus de développement de politique des IDN. C'est un point par rapport auxquels nous ne nous sommes pas tellement focalisés, car nous avons plutôt focalisé notre attention sur les noms de domaine de premier niveau, les nouveaux GTLD. Et donc, s'il y a des commentaires ou des contributions par rapport à ce domaine, nous pourrons en parler maintenant, ou dans cette séance, pardon. Et demain, le GAC va aborder également la question du lancement de deux codes de pays à deux caractères dans les nouveaux domaines de premier niveau. Cela figure dans le guide de candidature. Et nous allons donc voir quel est le processus à suivre, si un processus doit être établi en ce sens. Et voir aussi si les membres du GAC ont été sollicités par rapport à ces noms de codes de pays à deux chiffres. Quelles sont les implications pour le GAC et pour les membres du GAC? Voilà un petit peu les trois points que nous avons identifiés comme étant prioritaires pour le débat de cette séance. Du côté de la CCNSO, vous avez peut-être des points que vous voulez ajouter. Donc, tout d'abord, merci d'être venu pour avoir cet échange. Je vais donc passer la parole à Byron. Byron prend la parole. Merci, Heather. Merci aux membres du GAC. C'est mon premier jour officiel en tant que président de la CCNSO. Et c'est ma première réunion en qualité de président de la CCNSO au sein de l'ICANN. Nous allons plusieurs points à aborder. Je vais commencer par vous parler un peu du PDP concernant les IDN. Et Bart va nous en parler. Bart, tu as la parole. Bonjour à tous, je vais être très bref. Du point de vue de la CCNSO, le PDP concernant les IDN n'est pas encore clos, mais nous avons fait ce que nous avons fait. Et nous avons fait un rapport assez large qui inclut le vote des membres des CCNSO qui ont été présentés au conseil d'administration de l'ICANN. Et si vous regardez ce rapport du point de vue de son contenu, on peut penser que c'est un rapport final qui vous a été déjà envoyé. Mais si nous nous penchons sur le PDP lui-même, il y a deux points à considérer. D'un côté, c'est la politique par rapport aux termes ou chaînes des CCTLD. Et cette politique est destinée à essayer de remplacer la procédure accélérée où l'on prend en considération l'expérience qu'on a eue dans cette procédure accélérée et les révisions de cette procédure. Et la deuxième partie de ce PDP concerne l'inclusion des CCTLD IDN dans la CCNSO. Aujourd'hui, ce n'est pas encore possible et il faut des modifications dans les statuts. Voilà où nous en sommes. J'espère avoir abordé les points les plus saillants dans cette communication avec vous. Heather prend la parole. Merci, Bart. Je vais demander à Manal de l'Égypte de faire des commentaires parce que c'est elle qui a travaillé sur ce sujet par rapport à la procédure accélérée ou par rapport aux conclusions liées aux IDN. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose, Manal. Manal prend la parole. Merci, Heather. Merci pour cette mise à jour. Je tiens à rappeler aux membres du GAC que nous avons fini notre participation avec les membres de la CCNSO en ce qui concerne la procédure accélérée et le document thématique. Il y a certains certains points qui ont été soulevés dans le communiqué de Prague, mais ces points ont été déjà abordés grâce au travail de ces deux panels et grâce à l'évaluation que vous venez de nous communiquer. Je crois également, il faut que je vous rappelle que ceci va remplacer la procédure accélérée et il nous faudra donc réviser à ce moment-là nos principes provisoires du GAC car ceux-ci ont été établis en vue de la procédure accélérée et vu le PDP qui a été mis en œuvre, il va falloir réviser ces principes provisoires que nous avions établis et les renommer comme étant des principes du GAC pour le processus que l'on est en train de mettre en œuvre. Nous avons également reçu une lettre du conseil d'administration où on nous demande notre avis sur cette question. Il faudra donc rendre un avis par rapport à ce point. Heather prend la parole. Merci Manal. Il semblerait qu'il s'agit d'une bonne proposition de mon point de vue et en tant que GAC, on pourrait donc se pencher sur ces principes provisoires et répondre au conseil d'administration par rapport au rapport final. Y a-t-il des questions des membres du GAC en ce qui concerne les IDN et le processus de développement de politique pour les extensions géographiques et la transition de la procédure accélérée vers l'utilisation du PDP ou les résultats du processus de développement de politique. Commission européenne. Commission européenne prend la parole. Merci. J'aimerais soulever un point qui concerne point EU en grec. Ou dans le système d'écriture grec. Je remercie le deuxième panel pour le travail réalisé. Je pense qu'on pourrait revoir la décision qui avait été prise. Il est important de se pencher sur cette question pour voir si point EU en grec, du point de vue politique et juridique, l'idée, donc par rapport à ce point EU en grec, l'idée de l'Union européenne, c'est qu'on n'est pas d'accord avec ne pas pouvoir utiliser sur Internet une des langues officielles avec le point EU. Donc, vu qu'on a EU, le point EU en langue grecque, je ne sais pas quelles pourraient être les conséquences. Et ça fait un moment qu'on travaille là-dessus et j'aimerais que l'on puisse arriver à une solution. On a fait plusieurs propositions ou on a proposé cela à plusieurs reprises et c'est une situation assez particulière pour l'Union européenne qui possède 24 langues officielles et ce n'est pas correct que l'une des langues officielles de l'Union européenne dans notre CCTLD ne puisse pas figurer sur Internet. Cela est inacceptable. Heather prend la parole. Merci pour ces commentaires. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires par rapport à ce processus en particulier? Autrement, nous allons prendre note des inquiétudes qui ont été manifestées par la Commission européenne et nous allons écouter s'il y a d'autres commentaires. La Suisse, s'il vous plaît. Merci. La Suisse prend la parole. Merci. Bonjour à tous. Nous avons identifié des points qui pourraient être débattus et considérés dans le PDP de la CCNESO en ce qui concerne les IDN. Il y a une ligne où l'on parle de la sélection des CCTLD IDN ou des chaînes de CCTLD IDN qui disent qu'ils doivent pouvoir représenter, avoir une représentation significative du territoire concerné. Je pense que c'est un problème parce que le territoire, votre territoire, c'est la souveraineté territoriale dans n'importe quelle langue et non seulement dans la langue désignée comme étant la langue du pays. En tant que langue officielle ou langue acceptée officiellement par le pays. Si par exemple une minorité chinoise parle le chinois en Suisse, il serait intéressant d'avoir .ch en chinois et en russe et en alphabet cyrillique. Et non pas que, et non pas qu'on ait quelque chose qui soit sous le contrôle d'un pays ou d'une région en particulier. L'utilisation d'un alphabet ne peut pas être uniquement sous le contrôle d'un territoire ou d'un pays, indépendamment de quel est le code d'écriture. Je pense que cela n'a pas de sens, à notre avis, et c'est pour ça que je voulais soulever le point. Cadre prend la parole. La Suisse, c'est un point très intéressant, celui que vous venez de soulever. Est-ce qu'il y a des commentaires sur ce point en particulier et sur la façon dont cela a été débattu dans la procédure accélérée ou dans le PDP actuel? Royaume-Uni prend la parole. Merci, bonjour à tous. Je veux dire que ce que je comprends, c'est que pourquoi .uk devrait être en langue chinoise. Je me demande pourquoi .uk devrait être en langue chinoise ou pourquoi cela ne pourrait pas être en chinois. Ce serait discriminatoire parce qu'il y a des aspects commerciaux qui sont liés à ce fait. Il y a des entreprises britanniques qui travaillent avec .uk dans d'autres pays et qui, de cette manière, ne pourraient pas donner des adresses électroniques dans les codes d'écriture des autres pays. C'est pour ça que je soutiens la vision ou l'approche de la Suisse par rapport à ce point. Heather prend la parole. Merci, Royaume-Uni. Je me souviens qu'avec la procédure accélérée, c'était un critère que l'on avait identifié parce qu'on pensait que l'approche à appliquer serait plus limitée en ce qui concerne les extensions géographiques pour que ce soit plus rapide. Mais peut-être que je ne suis pas suffisamment familiarisée avec les processus de développement de politique. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou d'autres questions par rapport à ce point ou d'autres commentaires liés à cette question et à ce processus de développement de politique d'extension géographique? La Norvège, s'il vous plaît. Norvège prend la parole. Merci. C'est un commentaire rapide qui est lié au commentaire de la Suisse et du Royaume-Uni. Bien évidemment, de notre point de vue, il devrait être possible de faire cela car la procédure accélérée, comme c'était une procédure accélérée, justement, on s'était mis d'accord sur le fait que seules les langues officielles allaient être concernées par certaines candidatures. Mais cela, c'était en vue de parvenir à une procédure accélérée. C'est pour ça qu'il y avait une limitation, pour faire en sorte que cela puisse faire l'objet d'une procédure accélérée. Maintenant, on parle d'un PDP général, et c'est pour cela qu'il faudrait laisser de côté ces limitations. Merci la Norvège. L'Égypte prend la parole. Je voudrais mettre l'accent sur le fait que l'inquiétude du Royaume-Uni a été déjà envoyée au groupe de travail. Et je crois qu'on a déjà donné une réponse. Je ne suis pas très sûre si je l'ai ici avec moi. Je ne sais pas, Bart, si tu peux nous dire quel est où nous en sommes par rapport à cette question. Heather prend la parole. Merci, l'Égypte. Nous allons en parler après, Bart, ou tu veux en parler maintenant? Bart prend la parole. Je vais vérifier ce que j'ai. Je pense que dans le rapport provisoire, on fait mention à cela, mais je vais bien me renseigner et je vais vous donner l'information, car je sais qu'on a travaillé là-dessus et cela doit être quelque part. Je vais vous envoyer par le biais de Manal une réponse de la part du groupe de travail. Heather prend la parole. Merci, nous en serons reconnaissants. Et une fois donc qu'on aura la réponse à cette question, on pourra faire des commentaires par rapport à ce qu'il faudra faire. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il d'autres questions par rapport au processus de développement de politique des IDN pour les extensions géographiques? Très bien. Nous pouvons passer au point suivant, Bart. Le point suivant, Byron prend la parole. Le point suivant concerne le travail du groupe de travail sur le cadre d'interprétation. Et je vais donner la parole à Keith Davidson, c'est le président de ce groupe de travail. Keith prend la parole. Merci, Byron. Je suis le président du groupe de travail sur le cadre d'interprétation. Et d'un point de vue historique de ce groupe de travail, pour parler un petit peu de l'histoire de ce groupe de travail, nous avons travaillé sur les décisions de délégation et redélégation des CCTLD. Donc, notre travail a consisté à passer en revue toutes les décisions concernant la délégation ou la redélégation de CCTLD depuis sa création. Et nous nous sommes penchés sur le fait de savoir de bien comprendre, nous avons essayé de mieux comprendre quelles étaient les politiques et les orientations qui existaient, notamment dans le RPC 1591 de 95. Bernie Turquat est ici avec moi et à côté de Byron, il y a Becky Ben qui est vice-présidente du groupe de travail et qui a été vraiment qui nous a beaucoup aidés à analyser tous ces aspects liés au code d'écriture. Il y a beaucoup de matériel sur la révocation, donc je vais passer la parole à Bernie pour qu'il nous raconte de quoi il s'agit. Bernie prend la parole. Très bien. Puisque ça fait un moment qu'on n'en parle pas, nous allons passer en revue les principes de ce travail pour rafraîchir un petit peu la mémoire, pour que l'on puisse mieux comprendre les informations que nous allons vous envoyer. Nous allons voir donc les processus, les sujets que nous avons essayé d'interpréter, les activités que nous avons menées depuis Durban, le travail des parties intéressées et la question de la révocation. En ce qui concerne les politiques applicables, nous considérons la RFC 1591 et les principes du GAC de 2005. Le cadre d'interprétation consiste à ajouter de la couleur et de la profondeur aux politiques existantes et aux orientations existantes. En dehors de la portée de notre travail, on retrouve la modification des politiques ou des orientations applicables, le contrat avec l'IANA. Nous nous sommes donc concentrés uniquement sur l'interprétation claire du RFC 1591 et des principes du GAC de 2005. Pourquoi? Tel que Keith l'a dit auparavant, une révision très détaillée des délégations et des redélégations des CCTLD a été réalisée. Et cette révision nous a amené à nous poser beaucoup de questions. Beaucoup de détails ont été analysés dans le groupe de délégation et de redélégation. Et un rapport a été écrit, un rapport qui se trouve en ligne dans le site de la CCNSO. Quels sont nos processus internes? Le groupe de travail prépare une version préliminaire des interprétations pour différents sujets sous la forme d'un rapport provisoire tel que le rapport de consentement. Puis il y a un processus de consultation publique par rapport à ce rapport provisoire. On tient compte des commentaires et des publics et le groupe de travail prépare un rapport final sur l'interprétation de chaque thème ou de chaque sujet. Voilà donc quelle est la description générale du processus que nous suivons. Et nous aimerions recevoir de la part du GAC des contributions pour améliorer la qualité de notre travail. Le point suivant. Dans ce processus, le GAC et la CCNSO soutiennent le rapport final pour que tous les sujets soient obligatoires. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas progresser sans le soutien du GAC et de la CCNSO. Après, le rapport est présenté à l'ICANN, au conseil d'administration de l'ICANN, et c'est ainsi qu'on arrive au cadre et aux recommandations associées. Au départ, quand nous avons commencé, nous pensions que ce processus pouvait être réalisé en étapes. Préparer les recommandations, les faire parvenir au GAC, approuver que la CCNSO approuve ces recommandations, etc. Mais avec la première question liée au consentement, on a pu voir très clairement que les commentaires du GAC, en réalité, vous préfériez voir le tout avant de prendre une décision, et c'est tout à fait raisonnable. C'est pour ça que nous avons changé l'approche et nous avons ajouté cette notion de mettre dans un même paquet toutes ces questions. On a d'abord donc au niveau de l'interprétation le consentement pour les demandes de délégation ou redélégation. Le rapport final est déjà complet par rapport à cette question et vous en avez reçu une copie. Puis les parties intéressées, significativement intéressées, SIP. Dans cette étape, la consultation publique a déjà fini. Nous avons reçu des commentaires des GAC et nous avons reçu beaucoup de commentaires spécifiques du GAC. Comme ces commentaires sont très nombreux, nous n'avons pas encore fini le travail par rapport à ces commentaires. En ce moment, nous nous penchons sur la redélégation. Sans consentement, le groupe de travail est parvenu à un consensus par rapport aux recommandations sur la révocation de certains CCTLD et la consultation publique aura lieu jusqu'à fin décembre. Prochaine diapo, les questions à traiter encore ne sont pas critiques pour les activités qui se développent ici. Cela inclut un glossaire général de termes qui devrait utiliser, qui est en cours de préparation. Pourquoi est-ce qu'on a mis ça dans notre liste? Il y a une très bonne raison pour laquelle ce sujet figure dans notre liste. Si nous analysons les documents dans l'histoire de la délégation et des délégations et des redélégations de l'INN, nous pouvons identifier des changements très importants au niveau de la langue qui ne sont pas documentés. Dans beaucoup de cas, cela implique des changements dans l'interprétation des politiques. Ces changements de langue impliquent un changement de l'interprétation. Et c'est ce qui nous a amené à vouloir éviter des interprétations erronées aux différents niveaux. C'est pourquoi on a pensé qu'il serait très pratique de définir de façon précise ce que veulent dire certains termes et comment on les applique. Un exemple de cela, c'est qu'en réalité, il n'y a aucune définition formelle dans les documents de politique de ce que c'est qu'une redélégation. Il y a un terme que l'on utilise, c'est le terme transfert. Transfer, et ce terme a une signification précise. Et finalement, les recommandations pour les rapports de l'IANA sur les délégations et les redélégations concernent ce que je viens d'évoquer. Au cours des dernières 17 années, plus ou moins, depuis qu'on a commencé à analyser les rapports de l'IANA sur les délégations et les redélégations, le langage utilisé a varié très significativement et les contenus ont varié en fonction des situations. C'est pourquoi, à notre avis, il serait très utile d'établir des précision par rapport aux standards, aux normes minimum à respecter pour que tout le monde puisse savoir de quoi on parle. Voilà donc les les sujets sur lesquels nous nous sommes penchés. Quelles ont été les activités? Le groupe de travail s'est réuni 5 fois par téléconférence. Nous avons publié un rapport de progrès ou d'avancement sur nos activités. Nous avons lancé une consultation publique en matière de révocation de délégation. Ici, on parle un peu plus de l'histoire de notre groupe, que vous pouvez trouver sur le lien qui figure sur l'écran. Je crois que j'ai loupé une diapo. Non. Consentement. Je m'excuse. Je pense que j'ai... Voilà. Pour nous, le consentement, c'est quelque chose de fini qui sera inclus dans le rapport final. Diapo suivante, c'est les SIP, les parties significativement intéressées. C'est un terme assez intéressant. Vous n'en avez pas entendu parler, peut-être. Mais après avoir passé en revue les documents concernant les politiques et d'autres documents, nous avons compris que c'était vraiment, celle-ci était la phrase correcte. Même si vous n'avez pas identifié cette phrase dans le format de nos documents. Mais si nous analysons les documents, on voit que cette phrase qui parle des parties significativement intéressées est incluse dans tous les documents. Nous n'en avons pas parlé avant et nous espérons pouvoir le faire bientôt, une fois qu'on aura fini notre travail sur les questions de fond du groupe de travail sur le cadre d'interprétation, c'est-à-dire consentement, révocation et d'autres aspects plutôt administratifs et d'autres aspects qui pourraient ne pas intéresser le GAC. Quel est l'état où nous en sommes par rapport à la révocation ? Avant de rentrer dans les détails de cette question, parce qu'il y en a pas mal de détails, nous finissons d'abord avec les antécédents qui nous ont amenés à établir la révocation. Mais avant de rentrer dans les détails de la révocation, je voudrais savoir s'il y a des questions par rapport au processus ou des questions par rapport à l'histoire de ce groupe.
Frank prend la parole. Merci, Keith, de cet aperçu si clair de l'état actuel du travail du groupe sur le cadre d'interprétation. Je voulais faire un commentaire très court. Nous avons présenté des commentaires sur les parties significativement intéressées dans le rapport préliminaire. Et le 31 octobre, j'ai fait circuler au GAC un résumé très bref qui disait que le rapport de révocation était ouvert aux commentaires publics de manière préliminaire et que l'on invitait les membres du GAC à me contacter avec les commentaires qu'ils souhaitaient me faire parvenir dans cette réunion en face à face avec la CCNSO. Mais je n'ai reçu aucun commentaire pendant cette période-là. Sans doute, vous avez été très occupé avec d'autres questions et ça se comprend. Comme Bernie l'a dit, la largeur de bande est limitée. Mais comme nous sommes ici, eh bien, j'ai pu parler à certains collègues qui m'ont fait des commentaires et je les invite à les présenter. Le commentaire principal sur les SIP a été que de savoir si l'on avait fait suffisamment attention par rapport à ces sujets sur le rôle des gouvernements là-dessus. Peut-être il y a des commentaires similaires à celui du rapport de révocation, mais bon, je laisse cela à mes collègues. Voilà, je vais finir mon allocution et je dois dire que voilà notre position et aussi que j'aimerais présenter notre position à travers vous, Heather, avec le consentement de mes collègues. En se ayant trait au processus de consensus que nous serons en mesure de présenter, et nous allons présenter le commentaire final du GAC pour être en ligne avec la CCNSO et qu'il soit présenté comme rapport conjoint au conseil d'administration ou à IANA au moment approprié. C'est une question d'organiser les délais pour faire ce travail. Je crois que ce n'est pas facile, ça peut prendre du temps, mais il faut y penser. Et pour conclure, je me demande ici, quand pensez-vous clôturer ce travail avec le rapport final? Keith, nous pouvons répondre à votre question dans quelques minutes. Frank, parce que avant, j'aimerais parler de clôturer le processus. Il reste encore une partie de la présentation sur ce qui est inclus dans la révocation. Si tu me le permets, je vais répondre à ta question plus tard, ok? Keith, pas de problème. La Nouvelle-Zélande, il n'y a aucun problème. Je sais que l'occasion des membres du GAC de lire le rapport n'a pas, c'est-à-dire les membres du GAC n'ont pas eu trop de possibilités de lire le rapport. Bruce reprend la parole. Nous continuons. Alors, l'essentiel est la question concernant la révocation. La révocation est un autre terme intéressant par rapport au glossaire. Ceux qui sont ici depuis longtemps le connaissent peut-être. On a parlé de redélégation non consentie. À vrai dire, sur la base des détails de politique et de l'histoire, ceci n'existe pas. Alors, nous essayons de donner un sens à la totalité des mots utilisés. Le RFC 1591 identifie trois mécanismes disponibles pour l'opérateur IANA. Délégation, transfert et révocation des actions officielles qui ont un impact réel dans le fonctionnement des CCTLD, à savoir ces trois, seulement ces trois points. Sous le RFC 1591, un transfert exige le consentement du CCTLD actuel et le segment du 1591 dit cela dans d'autres mots. Vous devez vous rappeler aussi que nous avons déjà clôturé la question du consentement. Et ceci est parfaitement applicable à ce que je viens de mentionner. La révocation est le processus par lequel l'opérateur IANA fait la résiliation de la gestion d'un CCTLD. Pardon, on fait la résiliation de la responsabilité d'administration de l'administrateur du CCTLD. Diapo suivante, s'il vous plaît. Le groupe de travail du cadre d'interprétation interprète que le RFC 1591 limite la révocation au cas où il y aurait des problèmes persistants dans l'opération du domaine ou bien lorsque l'administrateur montre des conduites indues importante, même si l'opérateur IANA agit avec tous les moyens disponibles pour résoudre ce genre de conduite. Si l'administrateur est impliqué dans une conduite indue ou s'il existe des problèmes dans l'opération d'un CCTLD ou bien si l'administrateur du CCTLD n'a pas la volonté ou la capacité d'identifier les problèmes ou de rectifier les problèmes de manière raisonnablement satisfaisante pour l'opérateur IANA et ou interrompre cette conduite en infraction, l'opérateur IANA peut proposer un transfert. Alors là, il faut se cibler sur la notion disant que la révocation est une action de dernier recours. Et c'est clairement comme ça, une action de dernier recours. Il faut essayer de faire beaucoup de choses avant. Suivante, si l'administrateur ne donne pas le consentement au transfert proposé, le seul mécanisme disponible pour l'opérateur IANA afin de gérer les questions non traitables, c'est justement la révocation. Alors, il faut se rappeler que lorsque nous avons commencé ce segment, il n'y a que trois choses que peut faire IANA pour l'opération de CCTL de la délégation, le transfert ou la révocation. S'il s'agit d'un CCTLD en fonctionnement qui a été délégué, on ne peut pas le redéléguer, on peut le transférer. Mais par contre, si l'administrateur n'est pas disposé à le transférer, la seule chose à faire, c'est de le révoquer. Le groupe de travail du cadre d'interprétation interprète l'intention du RFC 1591 pour donner la révocation comme une option de dernier recours pour l'opérateur IANA. L'opérateur IANA doit utiliser tous les moyens à sa disposition pour aider l'administrateur à changer la conduite considérée comme une mauvaise conduite substantielle par l'administration. La révocation ne peut être considérée que si l'opérateur IANA démontre raisonnablement que l'administrateur ne peut pas ou ne souhaite pas, dans une période donnée, résoudre les défaillances substantielles spécifiées pour mener à bien ses responsabilités conformément au RFC 1591 ou bien respecter ses responsabilités en vertu de la manière disposée dans le RFC 1591. Encore une fois, nous essayons d'être très clairs. Voici une option claire. Dernière instance, et c'est ça le contexte où l'on va l'utiliser. Si l'opérateur IANA révoque une délégation, il doit essayer, en collaboration avec les parties significativement intéressées, de garantir que le CCTLD continue à résoudre les noms jusqu'à ce qu'il existe un remplacement approprié. La révocation n'implique pas que le CCTLD soit éliminé de la racine. Nous essayons d'être clairs. Encore une fois, nous parlons du droit d'administrer le CCTLD et pas du droit du CCTLD d'être dans la racine. Pourquoi? Parce que si on l'enlève de la racine, c'est-à-dire c'est fini, quoi. Le groupe de travail du FOI croit dans les principes généraux uniformes de justice et du RFC 1591 pour donner à l'administrateur affecté l'occasion de faire appel à un avis de révocation émis par l'opérateur IANA auprès d'un organisme indépendant. Et je crois que ceci est vraiment clair. Voici une idée un peu plus longue. Pour ceux qui ont des problèmes avec l'anglais, je vais essayer de donner aux interprètes et je vais le lire lentement. Le groupe de travail FOI reconnaît que l'opérateur IANA sera dans une bonne position pour évaluer la portée avec laquelle un administrateur mène à bien les responsabilités nécessaires d'un opérateur de ce CTLD de manière équitable, juste, honnête, ou au moins que ceci compromette la stabilité et la sécurité du DNS de manière compétente. En conséquence, le groupe de travail FOI interprète que le RFC 1591 veut dire que l'opérateur IANA ne doit pas participer de questions concernant l'équité, la justice, l'honnêteté, sauf que cela compromette la stabilité et la sécurité du DNS et que ces questions seront mieux résolues au niveau local. Essentiellement, ce genre de questions, nous allons dire oui, ça fait partie de notre RFC 1591. Et la manière de le résoudre sera locale. Prochaine diapo, nous arrivons à la fin de notre segment. Par la suite, nous allons répondre à vos questions. Mais nous voulons également signaler qu'il y a eu une question sur la signification d'une mauvaise conduite significative. Nous n'avons pas le texte sous les yeux. Je vais le lire. La mauvaise conduite dit que le groupe de travail FOI interprète que la mauvaise conduite fait référence à une conduite qui signifie la défaillance de l'administrateur de respecter sa fonction ou deuxièmement mener à bien les responsabilités selon ce qui est requis par le RFC 1591. À peu près le même texte que vous venez de voir. La partie de la mauvaise conduite substantielle qui est dans le document dit « La mauvaise conduite substantielle d'après le groupe de travail FOI, c'est la mauvaise conduite comme étant définie précédemment si elle a une durée au fil du temps pour mener à bien les responsabilités d'un administrateur de sorte de créer un dommage ou un impact substantiel à la communauté Internet et que cela signifie une menace à la sécurité du DNS. Nous essayons donc d'encadrer tout cela dans ce que nous voyons comme applicable dans ce domaine. En général, c'est-à-dire, on va avoir la réunion du groupe de travail jeudi. Alors, si vous avez des questions à poser ou si vous voulez y assister, vous allez voir le groupe de travail en action. Et c'est vraiment intéressant. Nous vous souhaitons la bienvenue. Nous vous remercierons de votre présence. Et dans cette réunion, nous allons débattre les débats reçus pendant la consultation publique. Et c'est des parties significativement intéressées, ainsi que le glossaire. Prochaine diapo. Ah, voilà. Et maintenant, je passe la parole à Keith. Keith, merci beaucoup. Pour résumer, je dois dire que ce travail ayant entré à la révocation complète le cadre d'interprétation, à savoir les trois chapitres. Le travail supplémentaire à faire et de préparer un glossaire et de mettre en place un plan pour Yana. Vous pouvez voir maintenant le cadre général. Tout ce que l'on puisse faire en termes de glossaire ou de mise en place pourra affecter l'intention et l'objectif ou l'utilité du cadre. Alors, nous avons présenté la question sur les parties significativement intéressées ou SIP et je vous invite à analyser le rapport pour bien voir quel est le cadre qui concerne justement le cadre d'interprétation. C'est vraiment critique pour nous d'avoir le soutien du GAC. Nous espérons l'avoir aussi à Singapour et à Londres et nous espérons bien avoir pu finir pour la réunion de Londres. Bernie, Bicky et moi-même, nous serons disponibles pour des séminaires web, des téléconférences avec le GAC dans la période intercession si vous trouvez qu'il s'avère nécessaire d'avoir plus de délibération sur le fond de la question. Nous faisons cette proposition à tous les membres du GAC. Ceci dit, parce que je sais bien que nous n'avons presque plus de temps, bon, j'espère avoir travaillé suffisamment et vous avoir suffisamment expliqué la question. Heather, merci beaucoup. Votre présentation a été vraiment très utile pour voir quel est le travail que vous êtes en train de réaliser. Nouvelle-Zélande, très brièvement, pour Keith. J'ai une question à poser. Quel est le type de délai que vous avez prévu pour compléter le travail? Tout simplement pour avoir une idée de la concentration du GAC pour voir si on pourra avoir la recommandation pour le mois de juillet. Keith, je crois que l'idée du délai concerne, c'est-à-dire lorsqu'on va finir avec la consultation publique sur la révocation, il faut savoir quel est le temps nécessaire pour que le GAC nous donne son commentaire sur la totalité du cadre et Combien de temps sera nécessaire pour que le GAC prenne une décision concernant notre rapport? Parce que si nous pouvons avoir un grand consensus à Singapour, c'est-à-dire j'espère finir le document de terminologie et le plan de mise en place pour la réunion de Singapour. Alors j'espère bien que lors de la réunion de Londres en juin, nous serons en mesure d'avoir fini le travail du groupe de travail du cadre d'interprétation. Voilà ce que nous avons prévu. Heather, merci de votre réponse. Nous avons l'Italie, le Royaume-Uni et l'Australie. Je vous demande, s'il vous plaît, de faire des commentaires ou des questions courtes pour pouvoir donner le temps à la question des codes à deux caractères. L'Italie. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Bernie, David, parce que il fallait traiter de cette question. Les principes du GAC de 2005 ne couvraient pas de manière intentionnelle le problème de la révocation. Et cela? Et quelque chose d'utile. Au sein du GAC, nous n'avons pas beaucoup de cas de problèmes avec des codes géographiques. C'est notre mérite en quelque sorte, mais nous savons que ce type de problèmes doivent être résolus. L'observation que je voudrais faire en ce qui concerne la révocation et la fonction IANA, c'est que l'étude doit tenir compte des principes des États-Unis sur les domaines Internet qui ont été publiés en juin 2005. Et qui ont été confirmés. Je crois qu'il y a une déclaration très claire sur les codes géographiques. Les gouvernements ont un intérêt légitime à administrer les extensions géographiques et les États-Unis reconnaissent que les gouvernements ont des politiques publiques et légitimes, ainsi que la souveraineté par rapport à la gestion des CCTLD. Pour conclure, je dois dire que toute révocation initiée à partir d'IANA, tôt ou tard, doit passer par la consultation du gouvernement concerné. Voici quelque chose d'essentiel. Keith, votre proposition est intéressante et nous n'en avions pas tenu compte parce que le gouvernement des États-Unis n'a pas mesuré ce qui pouvait arriver dans les communautés CCTLD ou ailleurs. Alors, cette applicabilité peut être importante ou non, mais il faut mener un débat là-dessus. Je voudrais ajouter qu'il y a un élément que nous n'avons pas inclus dans le cadre d'interprétation qui a trait au CCTLD et qu'il n'y a pas de politique par rapport au retrait des CCTLD. À deux reprises, le Conseil a choisi de retirer les CCTLD. Comme il n'y avait pas de politique avant, on ne pouvait rien dire là-dessus. Il existe peut-être un autre élément pouvant être considéré pour adopter un processus de développement de politique à un moment donné. Heather, vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Très bien. Alors, maintenant, j'ai le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, merci, Madame la Présidente. Merci au groupe de travail de nous avoir parlé des progrès. Le Royaume-Uni espère pouvoir célébrer la fin du travail de ce groupe de travail justement à Londres l'année prochaine. Je veux vous exprimer notre soutien sur la position par rapport à la révocation. À moins que ce soit critique pour la sécurité, la stabilité des noms de domaine, les décisions sur la révocation doivent correspondre à la communauté locale et au processus juridique à suivre dans chaque communauté locale, au sein des communautés, où ce code de géographique soit appliqué. Tout cela a trait aux souverainetés nationales. Je voudrais mentionner le fait qu'à partir de notre perspective, c'est une bonne solution. Heather
prend la parole. Merci. J'ai une liste assez longue. Je vais devoir la couper parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. L'Australie, le Singapour, Norvège et Égypte. Et puis, on va conclure. L'Australie, s'il vous plaît. Merci, présidente. Merci à la CCNSO et à ce groupe de travail qui a fait un travail très exhaustif. Nous apprécions énormément l'approche collaborative qui a été adoptée par la CCNSO avec le GAC. Ça fait un moment depuis que nous avons discuté ces questions, donc c'est très intéressant d'avoir écouté cette mise à jour. Je pense que c'est très encourageant au fur et à mesure que l'on voit les principes du GAC dans ce travail. En ce qui concerne le commentaire fait par Nouvelle-Zélande et le résumé qui a été fait, mes commentaires concernent notamment le manque de référence aux principes du GAC dans ce chapitre en particulier. Je pense que les commentaires rejoignent un petit peu, mes commentaires rejoignent ceux que l'on a eu par rapport aux parties significativement intéressées. Le GAC doit encore se pencher sur cette question, mais il semblerait dans un premier moment que les références dans ce chapitre... Nous, on parle de délégation et d'eurodélégation et on comprend que la délégation a une terminologie différente à celle du RFC parce qu'on parle de révocation et de transfert. Donc, même si on parle de la même chose, parfois on utilise un langage différent. Et du point de vue du GAC, la délégation et la redélégation est un point qui doit être résolu au niveau national. Et une fois qu'on prend une décision au niveau national, à ce moment-là, l'ICANN peut mettre en place un processus de redélégation. Ce que je vois dans ce chapitre initial, ce que j'aimerais, c'est que l'on puisse se concentrer davantage sur l'opérateur IANA pour savoir s'il doit mettre en place des actions. Quand on parle du processus de décision au niveau national, il faut mieux refléter cette question dans le chapitre. On en parlera avec les collègues. Mon commentaire n'est qu'un commentaire préliminaire. Mais je pense qu'il y a d'autres commentaires dans ce même esprit par rapport à d'autres parties du rapport. Je vous remercie encore une fois pour le travail qui a été fait. Heather prend la parole. Merci. L'Australie, le Singapour. Singapour prend la parole. Merci, présidente. Tout d'abord, j'aimerais remercier le groupe de travail du cadre d'interprétation pour ce rapport tellement exhaustif. Notre commentaire concerne la révocation. En principe, nous soutenons la recommandation concernant la révocation car nous la considérons très raisonnable. Un commentaire. La diapo dit que si le gestionnaire de CCTLD n'est pas d'accord avec l'opérateur IANA en ce qui concerne la révocation, il peut avoir recours à un organisme indépendant. Est-ce qu'on sait quel est cet organe indépendant, cet organisme indépendant? C'est un organe qui se trouve dans la juridiction de l'IANA ou en dehors de cette juridiction? Je peux répondre brièvement, l'orateur ne s'est pas présenté. Il y a une référence dans le RFC 1591 par rapport à ce type de désaccord. Cela est en dehors de notre mandat, le fait d'analyser ces désaccords. Donc, ce ferait partie d'un travail ultérieur. Le RFC 1591 envisage un panel de recours ou d'appels. Mais ce panel n'existe pas. Nous considérons les principes comme étant cohérents avec ce principe d'appel. Heather prend la parole. Merci. La Norvège a la parole. Merci, Présidente. Je voulais également remercier la CCNSO pour ce rapport aussi complet. Il est très intéressant d'avoir cette vision avec les différents termes, les différentes définitions et les différentes interprétations de ces termes, car ces termes sont parfois de nature juridique ou pas. Il est donc intéressant de pouvoir identifier ces différents aspects. Cela nous permet de comprendre aussi les différentes compétences au niveau national et les compétences au niveau juridique de l'IANA dans son rôle. Cela nous amène à évaluer les lois nationales et les procédures. Beaucoup de questions différentes sont présentées. Il sera très intéressant d'approfondir notre travail sur ces questions. En Norvège, nous avons une compétence nationale en vertu de la loi pour faire des transferts ou des délégations conformément aux lois nationales et indépendamment de ce que disent les documents. Ce que veut dire, c'est que le document permet de voir des points très intéressants sur lesquels nous pourrons faire une analyse plus approfondie. L'Égypte, vous êtes le dernier orateur. L'Égypte prend la parole. En réalité, mon commentaire ne concerne pas ce thème. Je m'excuse, mais je n'ai pas de chiffres ici, mais j'aimerais pouvoir revenir sur l'inquiétude concernant le fait de limiter les chaînes de caractères IDEN seulement aux langues désignées. Je n'ai pas fait circuler la réponse, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je voulais tout juste signaler une estimation conservatrice, à savoir il y a près de 2 millions de noms et plus de 1 750 000 noms éligibles pour être délégués. Nous devons permettre tous les noms géographiques dans toutes les langues. Cela a été considéré comme un défi en ce qui concerne la sécurité, la stabilité mondiale. C'est pour cela que je tiens à souligner les mérites de cette limitation. Heather prend la parole. Merci, c'était très intéressant. En ce moment, il nous reste quelques minutes. Nous allons donc très rapidement aborder la question des noms à deux caractères, des codes à deux caractères dans le système des noms de domaine et les politiques liées à ces noms. C'est une question que nous allons aborder plus en détail demain. Et c'est le Royaume-Uni donc qui s'occupe de cette question. Nous pourrions donc analyser rapidement ce point et puis on va clore notre séance. Royaume-Uni prend la parole. Merci beaucoup. Nous voudrions vous montrer 4 cas d'études différents, issus de différentes parties du monde, où les CC, les noms géographiques, extensions géographiques, il y a donc des noms de domaine à deux caractères. Et chacun de ces noms géographiques possède une politique singulière. Le fil conducteur, c'est que chacun de ces noms géographiques pose des difficultés différentes, mais ils concernent tous des communautés internationales. S'il existe donc un fil conducteur ou un point commun entre ces noms géographiques, c'est qu'ils ont une portée internationale. Je vais donc très brièvement vous donner une idée de l'impact que ces différences peut impliquer. Comme nous sommes en Amérique du Sud, je vais commencer par Patricio Pobleto de Chili. Patricio Poblete de Nick Chile. Et pour le cas de Point CL, il y a 26 ans, quand nous avons commencé, nous avons décidé d'être le plus libre possible, d'avoir le moindre nombre de restrictions, et donc il n'y a pas une interdiction en ce qui concerne l'enregistrement de noms de domaine à deux caractères dans le deuxième niveau. Cela n'a jamais posé de problème et nous n'avons jamais eu le besoin de réviser cette politique. C'est le cas aujourd'hui, même aujourd'hui. Royaume-Uni reprend la parole. Merci, Patricio. Maintenant, nous revenons aux îles des Caraïbes, les îles Caïmans, qui ont une approche différente. Archibald prend la parole. Dans les îles Caïmans, on a un seul nom de domaine et les sociétés qui enregistrent le nom de domaine, il y a un seul nom de domaine qui peut être enregistré, qui est gratuit. Nous faisons très attention pour que les gens ne puissent pas gagner de l'argent avec ce système de noms de domaine. En ce qui concerne les noms à deux caractères, on peut pas les enregistrer en ligne, mais on peut en demander l'enregistrement en ligne dans certains cas spéciaux qui doivent être considérés par notre conseil d'administration. Bernie reprend la parole. Comme vous le voyez, c'est des environnements très différents. Maintenant, on va écouter David Mo, on a écrit de Point NZ. David prend la parole. Si on souhaite un nom dans l'espace .nz, on peut l'obtenir sans aucune restriction. Bernie reprend la parole. Merci, David. Et maintenant, Hirohota du Japon. Hiro prend la parole. Merci pour le cas du Japon. .jj. Et point Japan. Il y a deux espaces au nom de domaine. Un de ces espaces est consacré aux organisations et l'autre espace, c'est pour les points CO, c'est pour les compagnies, non pas pour la Colombie. Et l'autre type de domaine, c'est pour l'utilisation générale. Donc les chaînes de caractères point JP, c'est utilisé pour les sociétés ou pour les organisations, les entreprises et les organisations. Et il y a 9 types. Mais au fur et à mesure que les nouvelles chaînes de caractères seront introduites, les combinaisons de chaînes de deux caractères pourront être utilisées. Les chaînes à deux caractères sont réservées parce qu'il s'agit d'abréviations de type organisationnel et non pas parce qu'il s'agisse de codes de pays. Par conséquent, les noms géographiques à deux caractères ne peuvent pas être enregistrés par des titulaires de noms de domaine. Et en ce qui concerne les noms de pays, ils ne sont pas réservés. Merci de prendre la parole. Merci beaucoup pour cette description de ces 4 exemples de noms géographiques. Je ne sais pas s'il y a des questions. Les Pays-Bas. Merci. Je suppose que je n'ai pas suivi de très près les explications parce que certains groupes de BGR ont demandé à ne pas être obligé à utiliser ce code à deux caractères dans le deuxième niveau. La première fois que j'y ai pensé, j'ai eu une inquiétude par rapport à la stabilité, si c'était pour des raisons liées à la stabilité. Il y a deux éléments. D'un côté, la stabilité. Cela pouvait être considéré comme quelque chose de contradictoire par rapport aux objectifs nationaux. Et puis, le deuxième aspect peut être lié à la confusion qui pouvait avoir chez les consommateurs. Je me demande quelle est votre perception par rapport à cela. Pour ce qui est de la CCNS, vous pouvez dire oui, nous on a tout un éventail dans notre unité constitutive. tout un éventail de personnes qui pensent qu'on peut tous avoir notre propre politique. Mais cela peut créer une certaine confusion au niveau des utilisateurs. Merci. Heather prend la parole. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou des questions par rapport à cela? Excusez-moi d'interrompre. Royaume-Uni prend la parole. Est-ce que cela a pu répondre à la question? Je voulais répondre aux Pays-Bas. J'ai deux casquettes. Je suis le directeur de CIRA, l'opérateur .dot.k. Et aux Pays-Bas, les choses se passent différemment. On ne tient pas compte du fait qu'il y a des aspects communs, même si l'on croit, même si l'on considère la façon dont on fonctionne nos registres. Dans ce cas, en réalité, c'est différent. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une vision cohérente et il n'y a pas d'intérêt à avoir une approche commune. Aucun des registres, les registres ne pensent pas que cela est nécessaire pour préserver la sécurité et la stabilité. Et c'est pourquoi leur choix dépend des communautés locales. Et l'histoire a aussi une influence. En ce qui concerne .ca, on travaille comme ça depuis très longtemps. Et ce n'est pas quelque chose qui a été contesté, alors que pour .nl, c'est différent. Je ne voudrais pas donc parler au nom de la CCNSO parce qu'il n'y a pas de vision commune. Heather prend la parole. Merci. La raison pour laquelle le GAC s'intéresse à cette question, c'est parce qu'il y a une référence dans le guide de candidature sur les codes à deux caractères. Le code d'enregistrement de marque nous a envoyé des lettres par rapport à cela. Et donc, pour nous anticiper un petit peu au travail que nous allons faire demain en ce sens, nous avons pensé qu'il était intéressant de savoir comment ces questions sont gérées au niveau des codes de pays, quelles sont les politiques sur lesquelles vous avez travaillé avant. C'était très utile pour nous de connaître les différentes approches et les différentes visions adoptées par rapport à ces codes à deux caractères, ces noms à deux caractères. Et donc, je vous dis que ce que vous venez de nous dire est vraiment très utile. Il est temps de clore notre séance. Il nous reste qu'une mise à jour de 90 secondes sur un point. Byron, je sais que vous pouvez le faire. Il s'agit d'une mise à jour très brève du travail que le groupe d'études du GAC et de la GNSO a fait sur les noms de territoire. Paul Schindler a été responsable de ce travail. Il avait une présentation de 4 minutes, mais je vais lui demander de la résumer. Paul Schindler prend la parole. Je vais vous demander qu'au lieu de m'écouter, vous regardiez l'écran. Je suis Paul Schindler, j'appartiens à .eu, j'appartiens au groupe d'études des territoires et de pays et de noms de pays. Nous avons analysé plusieurs cas. Nous avons élaboré des recommandations en septembre adressées au conseil de la CCNSO. Diapo suivante. Et notre recommandation principale, vous la voyez sur l'écran. Le Conseil a adopté les recommandations du groupe d'études et a établi des résolutions. Nous avons fait notre travail et la recommandation du groupe d'études sur l'IANA est d'établir un groupe d'études croisé. Et la mission de ce groupe est de poursuivre l'étude réalisée auparavant. Et il faut analyser s'il est faisable de créer un cadre de définition des noms de pays et de territoires pour toutes les organisations de soutien et comités consultatifs, sachant que les processus des nouveaux GTLD, de la Geneso, les CCTLD, etc., dans les noms de territoires et de pays sont traités différemment par tous ces organes. Peut-on adopter une politique commune? Et l'autre recommandation, c'est que grâce aux efforts du GAC et des gouvernements, le Conseil de la CCNSO recommandera au Conseil d'administration de l'ICANN que les noms de pays et de territoires dans toutes les langues qui sont exclus du guide de candidature soient inclus dans les prochaines séries ou périodes de candidature. Excusez-moi d'avoir parlé aussi vite. J'ai voulu tout dire en 90 secondes, mais je serai ravie de répondre à vos questions. Riedel prend la parole. Merci pour cette mise à jour. Un seul point. Pour les futures réunions conjointes avec la CCNSO, il serait très utile, s'il y a des gens intéressés dans le GAC, à nous aider à l'organisation de ces séances avec la CCNSO. Ce serait très utile pour nous, pour notre travail de préparation, afin de pouvoir identifier l'ordre du jour, le matériel à utiliser, etc. Je ne sais pas s'il y a des volontaires, si quelqu'un se porte volontaire pour faire ce travail, pour travailler avec les collègues de la CCNSO à la préparation de ces réunions conjointes. Ceci dit, nous avons eu un excellent échange aujourd'hui sur des questions très intéressantes. Je pense qu'il y a encore des domaines sur lesquels il nous faudra continuer à travailler. L'Iran, je vois que vous demandez la parole. L'Iran prend la parole. Oui, ce n'est pas par rapport à ce sujet en particulier. Je veux remercier le groupe pour le travail réalisé. Présidente, je crois qu'il nous faudrait une autre séance de 6h30 à 8h30. Pendant la pause café, il faudrait voir comment nous pouvons nous organiser notre travail. Heather prend la parole. Merci pour ce commentaire. L'Iran, je sais que cette salle du GAC sera disponible une fois que la séance avec le GAC aura fini. Donc la salle sera libre. Nous faisons une pause café de 30 minutes et puis nous nous préparons pour notre réunion avec le conseil d'administration. Merci beaucoup à la CCNSO.